Bonjour. Ce soir, je voudrais revenir sur la question du libre arbitre. Souvenez-vous de Jésus qui a dit: je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Il était en train de dire qu'il était un avec son Père. Il a d'ailleurs toujours dit qu'il était un avec son Père. Rappelez-vous bien de cela. Parce qu'on nous dit souvent que Dieu donne les grandes directions, et que pour les détails, eh bien, nous devons avoir recours au libre arbitre. Ça m'a toujours laissé songeur, cette histoire-là. Presque autant que l'idée qu'une personne peut être trois personnes en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, écoutez bien ceci. La Bible nous enseigne les grandes lignes que nous avons à suivre. Elle nous parle des lignes de conduite que nous devons adopter en tant que nouvelles créatures. Nous sommes des nouvelles créatures. C'est à nous de les étudier, ça nous a été donné, et Dieu nous y invite très sérieusement. Et puis Dieu tient caché dans les Écritures des prophéties qui s'accomplissent, qu'on le veuille ou pas. Dieu, tout au long de l'histoire des hommes, s'est choisi des gens pour être ses porte-parole, et il parle, et il se trouve toujours des gens pour écouter ce qu'il dit, et puis d'autres. Par exemple, nous savons que nous sommes sous le quatrième sceau de l'Apocalypse. Je vous l'ai déjà beaucoup enseigné. Nous le croyons parce que ça nous a été donné de le croire, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Qu'est-ce que dit Jésus? Il vous a été donné le pouvoir de connaître le mystère du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Il parlait des autres, ça ne leur a pas été donné. Matthieu 13, 11. Est-ce qu'ils ont choisi? Non. Il y a des gens qui ont reçu ceci ou cela, et puis d'autres, non. Par ailleurs, quelques-uns ont reçu la supériorité sur les autres, et c'est Dieu qui leur a donné aussi. Vous lirez ça dans 1 Corinthiens 4, 8. D'autres ont reçu certains privilèges ou des connaissances particulières, mais chacun, on n'a pas à se vanter de ce qu'on a reçu. C'est parce qu'on l'a reçu, on l'a reçu de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7, ce qu'on a, ce qu'on est. Nous avons été choisis, nous avons été dotés de certains dons, de certaines capacités. Alors il n'y a pas de quoi s'en vanter, nous l'avons parce que Dieu l'a voulu. Alors, où s'arrête le don de Dieu et où commence ma possibilité d'agir sans lui, sans le contrôle? À partir de quoi pouvons-nous dire, là, c'est par mon libre arbitre que j'ai choisi et que j'en suis arrivé à ce succès? C'est méconnaître Dieu que de penser ainsi. Un enfant de Dieu est prédestiné, choisi par Dieu. Le Seigneur, dans son amour, le lui révèle, il le lui fait comprendre. Et ça donne une très grande paix à celui qui croit cela. Dieu guide nos pas. Et il ne permettra pas que nos pieds se blessent contre une pierre, à moins qu'il ne le veuille, comme par exemple avec l'apôtre Paul. Mais il le lui dit. La grâce te suffit. Dans tous les cas, nous sommes toujours apaisés par cette façon de croire, par cette foi-là, que Dieu contrôle toutes choses, tous les détails. Maintenant, Dieu nous laisse vivre sur cette terre, et dès notre arrivée, il nous laisse croire que nous choisissons cette route-là plutôt que celle-là. Ça, c'est l'illusion, hein, je vous ai dit, c'est l'illusion de ceux qui n'ont pas le pouvoir de la foi. Quand on arrive sur la terre, on n'a pas encore la foi. On a cette illusion que nous choisissons ceci, nous choisissons cela. Non, en fait, il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas. Il a placé son esprit en nous pour nous conduire en toutes choses, même quand nous étions inconvertis, même les œuvres qui n'étaient pas belles, 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 elles étaient faites en lui. On verra ça dans Jean chapitre 3 tout à l'heure. Alors, si ça c'est vrai, pourquoi certains recevront des récompenses plus ou moins extraordinaires suivant qu'ils auront vécu sur terre, ceci ou cela? Pourquoi? Mais parce que, dans notre passé éternel, certains auront choisi de vivre ici-bas avec plus d'handicap que d'autres. Avant de venir sur terre, vous vous êtes entretenu avec Dieu. Je me suis entretenu avec Dieu. Et à ce moment-là, il nous a laissé libres de choisir. Ce n'est pas Dieu qui vous impose la vie que vous avez. C'est vous qui l'avez choisi. Il y avait plusieurs possibilités. Il vous a laissé libres de choisir ce que vous vouliez être, ce que vous vouliez faire, à quelle époque vous vouliez venir, à quel endroit précis de la planète, tout. En fait, c'est un peu comme si vous aviez vu un film et puis que vous avez choisi, voilà, moi je jouais ce rôle. Et vous êtes venu sur la Terre, il a effacé votre mémoire et vous jouez le rôle maintenant. Et vous avez choisi le rôle que vous vivez aujourd'hui. Et vous l'avez choisi en toute connaissance de cause. Pourquoi vous avez choisi cette vie-là plutôt qu'une autre? Parce que vous avez choisi le rôle que vous avez vu et qui vous a le plus plu. En quoi il vous a plu? Il vous a plu à cause de sa complexité. Vous saviez qu'en jouant ce rôle-là, vous alliez glorifier Dieu. Parce que votre esprit, il est différent du mien. Tous les esprits sont différents. Et vous, l'esprit qui est le vôtre, a trouvé que le rôle, ce rôle-là, ah, ça c'est quelque chose, je me vois bien jouer ce rôle-là. Parce que c'était dans votre état d'esprit, c'était dans votre esprit. Souvenez-vous, tous les esprits dans le ciel ne sont pas égaux. Il y a des esprits qui n'auraient jamais voulu jouer votre rôle. Jamais. Et vous non plus d'ailleurs, il y a des rôles que vous ne voudriez jamais jouer, tenir leur rôle. Par exemple, quand vous avez vu les rôles que vous pouviez jouer entre le 20e et le 21e siècle, vous n'avez pas voulu jouer le rôle de Potter. Potter, c'est mon chien. Potter est très heureux sur la Terre. Il est très heureux sur la Terre. Il est choyé, il est chouchouté. Il n'a pas vos soucis, n'est-ce pas? Ah non, ça, il n'a pas vos soucis. Il a les siens. Il a les soucis à la mesure de son esprit. Son esprit, c'est un esprit de chien. Et votre esprit, c'est un esprit humain. Les esprits d'animaux sont quand même inférieurs. C'est pas mal. C'est comme ça. Potter, mon chien, glorifie Dieu dans sa vie de chien fidèle. Et croyez-moi, à cause de sa fidélité, eh ben, il a son lot de chagrin, son lot de peur. Par exemple, chaque fois que mon épouse franchit le portail, il est inquiet, il pleure. Il a un esprit de chien fidèle. Et ça, ça lui occasionne bien des joies, par exemple, quand on rentre, quand il voit le portail s'ouvrir et que c'est notre voiture, ah, il sait que Michou est là-dedans, alors il saute, il crie, il aboie, il veut mordre les pneus. Hein. Mais il a aussi ses souffrances qu'il doit surmonter selon sa mesure. Eh bien, vous aussi. Parmi les humains, vous avez des esprits qui sont supérieurs à d'autres. Il ne faut pas le nier. C'est sûr, c'est comme ça. Mais ils ont la vie, l'existence, selon la mesure qui est la leur. Ils ont des joies, ils ont des peines, à leur mesure, ni plus, ni moins. Dieu contrôle tout, même les tentations qui vous assaillent. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. En Corinthiens, je crois que c'est 10, 13 ou quelque chose comme ça. Tout est sous son contrôle. Mais alors, si vous succombez à la tentation, ça vient d'où ça? Vous avez succombé? C'est parce que vous l'avez bien voulu, non? Mais ça non plus n'échappe pas au contrôle de Dieu. Le fait que vous ayez succombé, ça vous a brisé. Vous êtes un enfant de Dieu. Ça ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes brisé. En plus, il y a des conséquences qui obstrue votre chemin maintenant à cause de ce que vous avez fait. Et ça aussi, eh ben, ça vous fait grandir. Dieu aurait pu vous empêcher de succomber, mais il ne l'a pas fait. Juste, il vous avait averti de ce qui pourrait arriver. par les Écritures ou par votre conscience, mais il ne vous en a pas empêché. Alors, de là à penser que parce qu'il ne vous a pas empêché, ça prouve que vous êtes libre, et oh, faut pas pousser. La première personne que Dieu a avertie, c'était Adam. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Mais il fallait qu'il en mange. S'il n'en avait pas mangé, Dieu n'aurait jamais pu manifester sa qualité de sauveur. Il était sauveur en lui-même, Dieu, mais il fallait qu'il puisse y avoir quelqu'un de perdu pour qu'il puisse sauver. La deuxième personne que Dieu avertit, c'est Caïn. On trouve ça dans Genèse 4, 7. On peut le lire. Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alors voilà, Caïn s'en va. Est-ce que Dieu se ronge les ongles en se demandant ce qu'il va faire? Mais non, Dieu sait tout. Il ne sait pas tout, Dieu. Dieu sait tout. On n'arrête pas de le dire qu'il est omniscient, alors arrêtez de le limiter là. Dieu sait tout. Et Caïn a fait ce qu'il devait faire en tant que semence du serpent. C'est tout. Tout cela s'est dit, tout cela est fait, afin que la semence du serpent vienne à maturité, qu'elle apparaisse telle qu'elle est réellement, et que la semence de Dieu vienne aussi à maturité. Il y a deux semences, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Et au début, on ne voit pas la différence. Nous, et même les anges ne la voient pas, ils pourraient se tromper. Dieu leur dit non, attendez que c'est mûri, et puis là, on fera la moisson. Afin qu'à la fin, eh bien tout le mal soit détruit, et croyez-moi, il le sera. La semence du serpent a la même loi que nous. Et tout est embrouillé, et personne ne peut savoir qui est qui. Seuls les enfants de Dieu savent qui ils sont parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais c'est tout. Ça ne serait pas convenable que Dieu nous en dise plus. Avant de venir au monde, nous savions. Nous les fils et les filles de Dieu, nous savions. Et nous avons demandé à venir ici pour glorifier Dieu sur cette terre en toute connaissance de cause. Les mauvais esprits, ceux qui ne sont pas les élus, parce qu'il y en a qui ne sont pas les élus. S'il y en a qui sont élus, il y en a qui ne sont pas élus. Hein? Ceux qui ont le diable pour maître, ils ont voulu aussi venir ici pour glorifier leur maître. C'est une vieille histoire d'avant la création du monde, ça. Et il leur a été donné le pouvoir de venir s'incarner sur cette terre pour venir glorifier leur maître. Ils y croient, eux, à leur victoire. Ils croient que c'est Satan qui va gagner. Et quand ils arrivent ici, leur mémoire, elle est aussi effacée. C'est le jeu. Et puis, ils montrent leurs fruits petit à petit. Quand votre esprit est venu dans votre petit corps le jour de votre naissance, votre esprit a oublié. Il a oublié le passé éternel. Mais l'esprit des malfaisants, là, qui ont pour père le diable, eux aussi, ils sont entrés dans le jeu, et c'est la même chose pour eux, ils ont aussi oublié leur passé éternel. Alors, nous avons voulu venir, sachant qu'on perdrait ce souvenir de notre passé éternel, et nous savions aussi que rien ne nous distinguerait des prédestinés à la perdition. Dans Éphésiens 2, 1 à 10, vous lirez ça. Éphésiens 2, 1 à 10. Nous sommes entrés dans ce monde avec la marque d'Adam, parce que c'est de lui que nous descendons, tous les hommes. La première personne qui descend de Adam, c'est Ève. Puis après, il y a eu la scission. Hein? On vient tous du sang d'Adam. Mais après, il y a eu le mélange avec le serpent, avec le cerveau reptilien. Et puis, le mélange donc, de ces deux races, celle de Caïn et celle de Seth, ça a eu lieu. Mais nous étions à Dieu et nos œuvres, même les mauvaises, étaient faites en Dieu. Ah, vous ne croyez pas? On va lire ça dans Jean 3, 21. Jean 3, 21. Quiconque fait le mal est, du verbe est, haïr, quiconque fait le mal est la lumière, déteste la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière parce que ses œuvres, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors écoutez bien. Quelqu'un qui agit selon la vérité c'est Jésus, il a dit je suis la vérité. Quelqu'un qui agit selon Jésus, selon la vérité, il est venu sur la terre selon Jésus. Il agit sur cette terre selon Jésus. Il vient à la lumière, ça veut dire qu'il est dans les ténèbres. Quand vous êtes né, vous étiez dans les ténèbres. Votre mémoire a été effacée, vous êtes né avec cette malédiction de Adam et Ève sur votre vie, vous étiez perdu. Mais les œuvres que vous avez faites, vous êtes venu à la lumière afin que ces œuvres soient manifestées et que vous soyez pardonnés. Et puis il y a une petite virgule là. Afin que ces œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Expliquez-moi autre chose à ce sujet. Donnez-moi une interprétation, comme on aime à le dire. Il n'y a pas d'interprétation. C'est ça ou c'est rien. Les œuvres mauvaises que vous avez faites autrefois, alors que vous ne connaissiez pas Dieu, elles étaient faites en Dieu. Et vous agissiez selon la vérité, selon Jésus, c'est-à-dire vous étiez en train d'accomplir, même en faisant le mal, la volonté de Dieu, parce qu'il fallait que cela soit fait, afin que là où le péché abonde, la grâce surabonde et que Dieu soit glorifié. Ah ! C'est pas une doctrine, c'est simplement la réalité. Vous voyez ? Une immense profondeur. Jésus est venu nous chercher. Il est venu chercher qui ? Les siens. Ça veut bien dire qu'il y en a qui ne sont pas les siens. Il est venu chercher les siens et maintenant il vit en nous. Et nous progressons, nous retrouvons petit à petit l'image de Dieu. Nous devenons conformes, de plus en plus conformes à son image. Et mes frères et sœurs, nous tirons les leçons de nos erreurs. Et ça, c'est une chose qui nous édifie. C'est une chose qui est voulue et qui nous édifie. Alors Dieu nous chuchote ce qui est nécessaire. Mais ça ne serait pas convenable qu'ils nous disent tout, parce que alors à ce moment-là, ça serait de la triche. S'ils nous disaient tout, où serait la place de la foi, de la confiance en Dieu? Mes frères et sœurs, nous sommes entre ses mains. Pratiquement, voilà comment ça se passe, pratiquement. 1. Vous connaissez les Écritures. Par elle, vous connaissez la volonté de Dieu au sujet de votre comportement moral. 2. Par les Écritures, vous connaissez le sens de l'histoire. Vous connaissez là où nous en sommes en lisant les prophéties. 3. Par les Écritures, vous savez qui vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Ensuite, par l'observation, vous connaissez vos talents, vos tares, vos facilités, vos difficultés. Puis, par l'expérience, vous faites des progrès. Et vous apprenez de mieux en mieux comment vivre en tant que fils et fille de Dieu. Avec tout cela, avec toute cette connaissance, tout ce dont je viens de vous parler, là, des Écritures, de l'observation, de l'expérience, avec tout cela, vous prenez des décisions. Mais mes frères et sœurs, vous n'êtes pas libre de prendre la décision que vous voulez. Avec toutes les informations que vous avez, aimant Dieu comme vous l'aimez, reconnaissant comme vous êtes reconnaissant, vous n'allez pas prendre n'importe quelle décision. Où il est votre libre arbitre? Il n'y a pas de libre arbitre, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Connaissant ce que vous connaissez, ayant les expériences que vous avez, ayant observé les choses que vous avez observées, vous ne prenez pas n'importe quelle décision. Et vous arrivez à des conclusions de plus en plus justes, de plus en plus sensées. Vous en délibérez avec le Seigneur dans vos moments de prière, vous lui en parlez, et vous recevez de lui le sceau de l'approbation concernant les conclusions auxquelles vous êtes arrivés. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ça la vie de l'esprit, c'est ça vivre de l'esprit, c'est ça la communion avec Dieu. C'est pas ressentir des chatouillis dans la colonne vertébrale et puis lever les mains puis avoir des battements de paupières. C'est ça, c'est ce que je viens de vous dire, la communion avec Dieu. C'est votre vécu ici-bas, en relation de plus en plus consciente de la guidance de Dieu en toutes choses. Les autres, ils sont guidés aussi, mais ils ont l'impression de marcher à tâtons. On va le lire si vous voulez, ça se trouve, parce que j'ai mis ma Bible là, ça se trouve dans Actes 17, 26-27, on va dire. Il fallait que tous les hommes sortis d'un seul sang, donc de Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tous! C'est en lui, tous, il n'y a personne, même ceux qui sont, vous savez, on est né d'un seul, sorti d'un seul sang, celui d'Adam, il y a eu Ève, ensuite il y a eu scission, ensuite le sang a été mélangé avec l'ennemi, il y a l'ivré, il y a donc, eh bien, même l'ivré, c'est en Dieu qu'elle trouve la vie et l'être. La vie sans Dieu n'existe pas. Même Satan, il vit... par Dieu, c'est Dieu qui lui donne le vouloir et le faire, le mouvement et l'être. Et il détruira à la fin, c'est vrai, parce que c'est ainsi, il l'a décidé, il l'a créé, il crée même le méchant pour la perdition, nous dit la Bible. Il faut arrêter avec des croyances sentimentales, il faut avoir la vérité à nos reins pour être fort, pour aller de l'avant. Donc nous sommes tous sortis d'Adam, et puis maintenant nous allons de l'avant et c'est Dieu qui nous donne le mouvement et l'être. C'est lui qui a préparé les œuvres afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage, son œuvre. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés pour que nous fassions les choses qu'il avait préparées à l'avance. Où est le libre arbitre, messieurs, dames? J'aime beaucoup la théologie. Mais il faudrait qu'il revienne à la simplicité. Est-ce que vous voyez ce que l'esprit cherche à dire? C'est que le génie du christianisme consiste dans des œuvres inspirées plus que dans des paroles et des doctrines. Le christianisme vrai, c'est une constante communion avec le Père, au milieu de la tempête de ce monde. Je lisais dernièrement Luther, le réformateur, il a dit un jour, « Je suis là de ce monde, et le monde est là de moi. » La séparation sera aisée. Voilà ce qu'il a dit. « Je suis là de ce monde, et le monde est là de moi. » La séparation sera aisée. Mes frères et sœurs, ce sont nos œuvres qui prouvent notre communion avec Dieu. Ou pas. On connaît l'arbre à son fruit. Jésus n'était pas aimé simplement parce qu'il démontrait que ce n'est ni par l'éloquence, ni par les émotions, ni par les paroles, ni par le baratin, ni de rien du tout qu'on peut chasser l'erreur et qu'on peut guérir les malades. C'est quand on est un avec le Père. Maintenant, nous sommes un avec le Père par Jésus-Christ, parce qu'il nous a réconciliés avec le Père. Et quand on est un avec lui, où est le libre arbitre? Je suis venu non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Pouvez-vous le dire? Pour pouvoir le dire, il faut d'abord le croire. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à méditer ces choses et à transformer des croyances anciennes, les changer, les enlever, pour faire place à cette inspiration que tu donnes en ces derniers temps. Merci Jésus, mon Dieu. Amen. Amen.